vous avez quel pays là sur ce petit rayon de rose de toutes les couleurs?
La rose que vous avez devant vous, la rose rose là, c'est une rose du Kenya. Alors ce qui coupe le mercredi, c'est conditionné chez eux le jeudi, ça part en avion le vendredi, c'est remis à l'eau pendant le week-end en Hollande, c'est vendu sur la vente du cadran le lundi et ça arrive chez moi le mardi. Donc c'est une rose qui a quasiment déjà eu une semaine de coupe avant que ça arrive.
La rose, celle qu'on offre à la Saint-Valentin, est en fait une grande voyageuse. Près des deux tiers des roses vendues en France viennent de l'étranger, du Kenya ou d'Éthiopie le plus souvent, après un long voyage avec une escale aux Pays-Bas. Et la fête des amoureux est aussi, dans une large mesure, celle des fleuristes. Cette semaine est la meilleure de l'année en termes de chiffre d'affaires, devant celle de la fête des mères et celle du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes.
Pour la Saint-Valentin, dis-lui « je t'aime » avec une rose.
Le problème pour les amoureux européens, c'est que les roses, ça ne pousse pas chez nous en hiver. D'où la nécessité de recourir à des productions dites de contre-saison. Et derrière la rose que vous allez offrir, il y a une véritable industrie. Le marché annuel des roses, c'est pratiquement 4 milliards de dollars chaque année. Le prix à payer pour avoir des roses toute l'année.
Nous, on a un mot, hein. On dit que la rose est une diva hypochondriaque.
Car oui, outre une empreinte carbone plutôt coûteuse, la rose de la Saint-Valentin vient d'une région où les ressources hydrauliques peuvent être menacées, où les pesticides ont contaminé les sols, via des serres éclairées parfois jour et nuit. Tout ça avant d'arriver chez un fleuriste français comme celui chez qui s'est rendu Grégoire Le Callot. Pour ce reportage, allons voir si la rose.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Alors on est devant un fleuriste à Montrouge, en région parisienne, ça s'appelle l'Atelier de Coco, et on va aller voir les roses qu'il a à vendre.
Bonjour.
Si, bonjour.
Une rose.
Ouais, celle-ci.
C'est pour offrir ?
C'est bon.
Je me plaisais d'offrir un anniversaire, monsieur.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme option?
Je t'aime.
Ben voilà, je t'aime.
J'ai compris.
Ben oui.
Voilà.
Merci bien.
Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Alors, je suis le responsable de la boutique de l'Atelier de Coco.
C'est vous, Coco?
C'est moi, le Coco. La boutique, il existe, ça fait un an et demi.
C'est bientôt la Saint-Valentin. Est-ce que les roses, ça commence à partir déjà?
Non, le rose pour le Saint-Valentin, il faut le commander une semaine ou 10 jours à l'avance. Sinon, on ne peut pas en avoir tout ce qu'on veut.
Alors, vous avez des roses à...
Des roses d'Équateur, de Hollandais, produits hollandais, de Caraïbes. Voilà, on va avoir des roses comme ça, de grandes tiges, d'auteur de 70 cm. C'est ça le symbole de Saint-Valentin, c'est l'amour. Le rose, c'est le premier plan. Les gens, ils viennent, ils achètent que de roses. Ou de bouquets de roses avec de mélange. Voilà.
Et en temps normal, en dehors de la Saint-Valentin, les roses, ça reste la fleur la plus vendue?
Oui. La boutique, sans roses, c'est pas possible. En boutique, ça marche avec le rose. Si on n'a pas de roses dans le magasin, ça veut dire comme si on n'a pas des habits sur nous. C'est comme ça, tout nu. Il y a des roses vraiment encore plus chères que celles-là. Nos roses, on prend moyen. Et pour nous, c'est quand même de bonne qualité. Vous voyez comment il est costaud, la tête, ça c'est très joli.
Ça, c'est de la rose de Hollande?
Non, Équateur. J'ai pas de rose Hollande là. Ça vient de Caraïbes.
C'est des roses qui tiennent bien, qui tiennent combien de temps?
Il tient une semaine. Après, il faut entretenir. Ça veut dire qu'une rose... On ne peut pas laisser comme ça dans le vase et abandonner. Façon de soigner, couper les tiges 3, 4, mettre beaucoup d'eau, voilà. Si on fait tout ça, ça se garde 15 jours.
Qu'est-ce que vous préférez faire comme bouquet, vous avez?
Moi, je préfère le rose, 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 tout simple. Saint-Valentin, c'est ça le rose. Il faut commander comme ça.
Il faut que les amoureuses, il faut qu'elles demandent des belles roses. Il ne faut pas qu'elles demandent que des roses.
Voilà.
Est-ce que tu as commandé des roses pour les Saint-Valentin?
Non, je ne suis pas étonné. Là, il faut avoir peut-être 500 ou 1000 roses. C'est le meilleur moment pour le fleuriste. Saint-Valentin, fête des mères. Voilà, c'est deux fêtes. Voilà.
Alors, on est à Rungis, au marché international, dans un immense bâtiment blanc qui s'appelle le Pavillon des Fleurs. On va chercher la porte 5.
Là, le BLA.
On voit partout des acheteurs entre les allées qui regardent les fleurs qu'ils vont acheter pour leur commerce.
Ouais.
Et on retrouve Coco, notre fleuriste de Montrouge, chez un de ses principaux grossistes.
Un très beau fleuriste en plus.
Donc moi je m'appelle Jérôme Couac, je suis donc grossiste, on appelle ça comme ça, grossiste à Rungis, grossiste en fleurs. On a une société qui s'appelle Coacfleur Distribution, CQFD. J'ai 9 salariés. On achète tous les jours sur la Hollande, l'Éthiopie, l'Afrique donc en général. On achète aussi sur de la Thaïlande des orchidées, on achète en Colombie des roses. Donc en fait, on achète un peu partout, on sert de... Voilà, on regroupe les marchandises, on les propose et tous les jours, on essaye de les vendre à nos fleuristes.
Aujourd'hui, être grossiste en fleurs, c'est vraiment avoir un œil sur l'ensemble de la production planétaire.
Oui, il y a des hortensias, ça c'est un très bel exemple. L'hortensia, on en produit en Hollande, ils sont très beaux. Mais j'achète toute l'année des hortensias qui sont produits en Équateur, sur un prix défini à l'année. On peut pas se passer, de tous ces produits-là.
Et même sur la rose, vous disiez, c'est une production qui
la rose, fait le tour du monde. Quoi. Ça reste le produit phare. Hein. C'est, c'est entre 30 et 40% de nos achats.
Du coup, vous avez quel pays là sur ce petit rayon de rose de toutes les couleurs?
Là, vous avez l'Éthiopie, vous avez la Colombie derrière, vous avez donc la Hollande naturellement. Et j'ai pas de produits français en rose parce que j'ai pas trouvé. Il y a quelques producteurs dans le sud de la France, mais ils vendent maintenant beaucoup localement en fait. Ça évite les frais de transport et donc ils sont mieux placés. Mais il y a aussi des fleurs qui transitent par la Hollande qui viennent de ces pays-là. Donc moi j'ai des produits en direct, mais j'ai des produits qui viennent d'Hollande qui sont produits dans ces pays-là. La Hollande est devenue la vraie plateforme en Europe. En Europe et dans le monde, de la rose en particulier, mais aussi d'autres produits. Et les producteurs de roses en importation, surtout dans les pays d'Afrique, c'est beaucoup de roses 40 ou 50 cm, toujours pour des questions de transport. La rose que vous avez devant vous, la rose rose, là, c'est une rose du Kenya. Alors, ce qui coupe le mercredi, c'est conditionné chez eux le jeudi, ça part en avion le vendredi, c'est remis à l'eau pendant le week-end en Hollande, c'est vendu sur la vente du cadran le lundi, et ça arrive chez moi le mardi. Donc, c'est une rose qui a quasiment déjà eu une semaine de coupe avant que ça arrive. C'est pour ça aussi la différence de prix entre une rose d'importation et une rose d'un producteur hollandais. C'est aussi cette fraîcheur qu'on va rechercher. Parce que, en tenue au vase, vous allez le retrouver, ça. Un produit qui a une semaine de coupe, obligatoirement, si on compare avec un producteur hollandais, qui, lui, va couper la veille, et vous les avez... le lendemain, c'est vendu, donc vous avez quasi... C'est un circuit court sur 3 jours. Bon, déjà, vous la retrouvez en vase. Hein. Les 3 jours ou 4 jours qui manquent, vous les retrouvez en vase. Hein. Il ne faut pas se focaliser sur un prix de vente. Le prix de vente, ça ne veut rien dire. Une rose d'Éthiopie, elle est produite, c'est vrai, pour certains prix en Afrique. Mais après, il y a du transport partout. Il y a du transport pour l'emmener en avion jusqu'en Hollande. Il y a encore un transport qui va revenir jusqu'à moi. Si moi, je réexpédie, il y a encore un transport. Enfin, le transport coûte très cher aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de camions sur les routes. Des plateformes de distribution, il y en a partout maintenant. Des plateformes de stockage. Donc effectivement, qui dit stockage dit encore un nouveau transport. Entre les deux, on parlait de circuit court, rien dans le commerce moderne ne tend vers ça.
Interception sur France Inter.
Viennent toutes ces fleurs que Coco et d'autres achètent à Rungis. Pour suivre la piste de la rose, il faut faire un grand pas. Nous avons rendez-vous en Hollande, pays qui représente 87% des importations de roses en France. Nous sommes tout près de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, dans un complexe de hangars de la taille de la principauté de Monaco. Bienvenue à Alschmeer, à Royal Flora Hollande, énorme coopérative de 4000 producteurs de fleurs du monde entier. C'est ici qu'ils envoient 40% des fleurs coupées dans le monde pour les vendre aux enchères. Un système organisé à la milliseconde pour traiter des milliards de fleurs. Michel Michel Van Schry, porte-parole de Royal Flora Holland, nous guide dans les dédales de ce labyrinthe à la rencontre d'un trader de fleurs.
On vend 12 milliards de produits par an en tout.
C'est vraiment le plus grand marché du monde ?
Oui. Les exportations depuis les Pays-Bas représentent 6 milliards d'euros. Ici, c'est la salle des ventes. Mais la plupart des produits sont mis aux enchères en ligne. Il y a 2500 acheteurs à distance. Ils peuvent aussi bien acheter depuis leur bureau, ici à Alchemir, que de Paris, ou Moscou, ou ailleurs. Voici notre commissaire-priseur.
Good morning.
Good morning.
Good morning, my name is Gregoire.
Good morning, ladies and gentlemen. I'm Eric Wassenaar.
Je m'appelle Eric Wassenaar, je suis commissaire-priseur chez Royal Flora Holland et je suis spécialisé dans les roses.
Ja, maar als je een koers wil, dan pak je het, monsieur.
Ja?
Ja, lopen we van beneden langs?
Ja, is goed. Oké, we follow him.
Voici les salles de vente. Ici, c'est un studio. On ne voit pas d'acheteurs, on ne voit pas de fleurs, tout est en ligne. Nous vendons en fonction de ce que nous savons. Toutes les informations sont ici. Le producteur, la variété, la longueur, le poids, combien de fleurs par seau, l'ouverture de la rose. Tout est là sur cet écran. Comme ça, je suis assuré d'avoir toutes les informations nécessaires pour les enchères. Donc je commence à un prix selon ce que je sais de la fleur et ce que je sais du marché. Je vais anticiper un prix à 50 centimes par exemple.
Eric nous propose en plaisantant de nous y mettre, on décline prudemment. Royal Flora Holland dispense une vraie formation pour cette enchère inversée où on voit le prix descendre sur un cadran gradué. Aux acheteurs d'appuyer sur le bouton au bon moment pour décrocher le lot au meilleur prix.
Mon boulot, c'est d'obtenir le juste prix. Si le prix est trop bas par rapport au marché, j'arrête l'enchère. Je dis non. J'annule cette transaction parce que j'en attends 40 centimes et vous m'en donnez 20. Si la fleur part à 20 centimes, le producteur va m'appeler et me dire « Eric, je crois que t'as fait une connerie ». C'est la sonnerie, ça veut dire qu'on s'y remet. Vous voyez les points rouges, ça part à 80 et ça descend à 20 centimes. Donc l'acheteur appuie sur le bouton à 20 centimes, il achète un certain nombre de seaux, 4, non 2, il réfléchit. Une fois que c'est fait, il y a un nouveau lot avec 3 seaux de 50 tiges chacun pour 38 centimes. Ensuite un autre lot, 2 seaux de 50 tiges à 20 centimes. Quand un lot est vendu, on passe au suivant, une autre transaction et puis encore une autre. C'est la vitesse à laquelle on vend. Maintenant, nous pouvons aller dans la chambre froide là-haut.
Depuis tout à l'heure, on marche dans des immenses hangars. Il y a partout des chariots, des norias de chariots, soit conduits par des employés, soit sur des rails qui ils savent déjà où ils vont. Là, on est face à un rail de roses qui ont déjà été achetées et qui partent vers les camions qui vont les distribuer partout dans le monde.
Au moment de la Saint-Valentin, nous vendons 100 millions de roses en une semaine. Et là, le dernier étage, juste derrière, est aussi rempli de roses.
Et le prix est plus élevé, du coup ?
Oui, parce que la concurrence est plus forte. On sent la tension sur le marché. Normalement, nous vendons pour 80 millions d'euros chaque semaine. Mais là, c'est plutôt 120, 150 millions d'euros.
Et combien ça représente, les roses, financièrement ? Combien ça pèse ?
3 milliards et demi.
Une fois que les fleurs sont vendues, on les apporte ici, dans l'espace de distribution. Elles vont être récupérées par des chauffeurs qui scannent un code sur la voiture. Ensuite, le système va leur dire où ils doivent conduire les fleurs et combien de seaux ils doivent livrer. C'est le signal de la pause. Nous avons une filière avec des partenaires spécialisés. le producteur, puis le transporteur. Nous organisons le marché et nous nous occupons des services logistiques au niveau de l'espace de distribution. Nous avons des entreprises spécialisées qui exportent les produits. Et ensuite, on a les fleuristes, les supermarchés et tous ceux qui vendent aux consommateurs. Les gens qui conduisent se débrouillent bien. Parce que parfois ici, c'est encore plus bondé que la place de la Concorde.
On arrive chez Meyer Roses à Delfgoost, à quelques dizaines de kilomètres du grand marché d'Alsmer. On traverse une Hollande typique avec ses polders, ses champs très verts, ses canaux, et puis d'immenses serres partout, d'immenses serres éclairées par des lumières, des dizaines, des centaines de lumières. On va rentrer dans cette entreprise, un des producteurs les plus connus de Hollande.
Bonjour, je suis John. Vous enregistrez déjà ? Bienvenue à Meyer Roses. Ça représente 10% de l'entreprise. Ça fait 12 000 mètres carrés. C'est donc ici que nous faisons pousser les roses. Nous les cueillons deux fois par jour. La chose la plus importante pour les roses que nous cultivons, c'est qu'elles soient bien ouvertes. Pour nous, le plus important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. La température reste assez fraîche ici. Là, il fait 19 degrés. Et la nuit, les lumières s'éteignent pour 6 ou 8 heures. Et à ce moment-là, la température peut descendre à 14 degrés.
Et ça suffit pour les roses ?
Ça dépend de ce que l'on cherche. Si vous voulez beaucoup de roses, la température peut monter à 20, 22 degrés et à 18 la nuit. Mais ce n'est pas ce que nous voulons.
Il y a toujours eu beaucoup de fleurs cultivées en Hollande, mais jamais autant.
Il y a 10 ans, la culture des roses était très importante. En Hollande, c'était environ 1000 hectares cultivés, contre 250 aujourd'hui, je crois. Donc seulement 25%.
Oui, c'est-à-dire 10% de la production de fleurs hollandaise.
La production est partie dans d'autres pays, des pays moins chers. J'aime bien passer mes vacances au Kenya, mais on n'aime pas trop que la production parte là-bas. Chaque fleur doit être parfaite. On ne fait pas attention à la vitesse à laquelle des gens travaillent ici. On se concentre simplement sur leur motivation et sur la qualité des fleurs. Ici, ce sont des roses de la variété Avalanche. Nous faisons pousser les fleurs sur de la laine de roche. Il y en a là-bas. C'est une petite tresse de laine. Chaque plant est posé sur un système d'irrigation. Quand l'eau en sort, elle est nettoyée avec la chaleur avant de repartir dans le système. Donc ça permet de recycler l'eau.
Beaucoup de gens considèrent que cette manière de produire pose un problème écologique parce que ça utilise beaucoup de produits chimiques.
On ne rejette pas l'eau dans le sol, on la recycle. Vous parlez de produits chimiques, mais je pense que 90% de ce qu'on fait pour protéger les récoltes des insectes nuisibles repose sur la biologie. Vous voyez ces sacs ? À l'intérieur, il y a des mites et d'autres micro-organismes. On peut les voir bouger. Ils sont tout petits. Ils servent de protection naturelle pour la récolte, contre les insectes. Toutes les 2 ou 3 semaines, on verse un nouveau sac.
Combien de fleurs il y a dans cette serre, par exemple ?
On produit en moyenne 500 000 roses par semaine, parfois 1 million si la météo est bonne. Mais on n'est pas les plus gros producteurs, c'est certain. D'ici, un gars conduit les roses dans la salle réfrigérée. Ici, il fait environ 3 degrés. On les garde 24 heures minimum là-dedans parce qu'il faut qu'elles s'hydratent. Il y en a qui partent en France, d'autres au Royaume-Uni. Certaines voyagent dans de l'eau, d'autres à sec. Et certains de nos clients sont au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Donc on doit s'assurer que les roses boivent de l'eau pendant 24 heures au moins avant de partir. C'est ici qu'on met les roses. C'est le test final de qualité. C'est très important dans le process. On les pose sur le tapis des machines. Chaque rose doit être parfaite. Attention aux mains. Par ici, vous voyez différentes tailles. Elles sont mesurées par ordinateur. Ça marche bien.
Combien ça coûte une machine comme ça ?
1 million d'euros. Chaque machine. Il faut bien s'entendre avec sa banque.
Des millions d'euros sont donc investis dans la rosiculture aux Pays-Bas, un pays où a eu lieu le premier krach boursier de l'histoire économique au début du XVIIe siècle, quand la bulle spéculative du marché de la tulipe a explosé, déjà en raison de la saisonnalité de la production. La leçon a été retenue certainement, puisque désormais, la Hollande est en mesure d'importer des roses toute l'année.
Interception. Le magazine de reportage de France Inter.
Allons voir la rose maintenant sur son lieu de naissance. Sur les hauts plateaux est-africains, le climat permet l'implantation de gigantesques exploitations. La plus grande au monde, la Kenya Nocerian, est une ferme de 5000 hectares, 6 à 7 récoltes par an pour 7 à 8 plants de roses au mètre carré. Laure Broulard s'est rendue dans une exploitation de taille plus modeste, toujours au Kenya, Redlands Roses, spécialisée dans la fleur haut de gamme et dirigée par une Française, Isabelle Spindler.
Alors, Redlands Roses a été créée en 1996. C'est une entreprise qui a été créée avec l'idée de produire des roses pour l'export, mais en hors-sol, c'est-à-dire en favorisant les techniques qui minimisent la consommation d'eau et qui permettent de ne pas rejeter des engrais, phosphates et nitrates, dans les nappes phréatiques.
Aujourd'hui, quelle est la taille de la ferme ? Vous avez combien d'employés ?
Alors, on a un peu moins de 600 employés. Pour la période de la Saint-Valentin, c'est l'été au Kenya, puisqu'on est en hémisphère sud, on a plus de production. Et donc, on emploie à peu près, sur les 560 employés qu'on a permanents, on recrute 24 employés saisonniers du mois de janvier au mois de mai. Donc, ils couvrent Saint-Valentin, fête des femmes et fête des mères.
Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour votre entreprise, la Saint-Valentin, en termes de production ?
Si on fait une bonne Saint-Valentin, on peut se permettre d'avoir des pépins le reste de la saison. Si on fait une mauvaise Saint-Valentin, on n'a plus droit à une autre erreur.
Et en ce moment, vous envoyez combien de roses par jour, par exemple ?
Alors, nous, on fait en moyenne, dans l'année, 50 000 tiges jour.
Et donc, par exemple, en période de Saint-Valentin, c'est plus haut ? On atteint quel chiffre ?
Entre 70 et 80 000. Disons que c'est la Saint-Valentin, si vous voulez, les exportations de la Saint-Valentin durent un maximum de 10 jours. Hein. Pendant ces 10 jours, on peut avoir 5 jours où on monte à 90 000. Mais pas plus, parce que ça rentrerait pas. Il n'y a pas la place pour les chambres froides, pour le process, etc. Donc, c'est important, mais on ne double pas notre chiffre d'affaires à la Saint-Valentin.
Je ne vous ai pas demandé, vos roses, vous les vendez à combien ?
En moyenne, on vend départ Kenya. Donc, nous, on ne paye jamais le fret. On est à 0,41 euros la tige.
Et à Paris, par exemple, elles se vendent combien ?
Je pense que c'est des roses qui se vendent à 4 euros la tige.
Le secteur kényan des roses a été très décrié pendant longtemps et principalement il y a 5 ou 10 ans pour les conditions de travail des employés et pour l'empreinte environnementale. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur kényan aujourd'hui ?
Alors, en termes de conditions de travail, il y a la loi kényane et après, il y a les accords syndicaux de branche, où les salaires minimums sont fixés, ainsi que les augmentations de salaire pour période de 2 ans. Nous, en particulier, on paye presque deux fois plus que le minimum syndical en moyenne.
Il est à combien, le minimum syndical ?
Il est à, en basic salary par mois, il est à 60 euros, plus 20 euros de... Donc, on arrive à 110 euros par mois. Et après, selon les besoins ou les priorités qu'on donne, on fait mieux. Donc, par exemple, nous, à Redlands Roses, on a un programme d'assistance à la scolarisation de nos employés. On paye les frais de scolarité à tous nos employés pour un maximum de deux enfants en donnant la priorité aux filles. Et du point de vue médical, on assure les frais médicaux pour tous nos employés, un conjoint et deux enfants. Il y avait certaines entreprises qui pensaient que la profitabilité ne pouvait exister que si on payait le plus bas possible les salaires et en employant des gens que comme temporaires, etc. Mais ça n'existe très peu maintenant. Donc ça a beaucoup évolué, à la fois sur les conditions d'emploi et à la fois sur tout ce qui est technique agricole.
Alors nous arrivons dans la petite maison d'Evaline Chibai, dans le quartier, ou plutôt le bidonville de Karagita, là où la plupart des travailleurs des fermes horticoles habitent.
Welcome, my dear.
Derrière la petite porte bleue, j'aperçois une toute petite chambre, une pièce en tout cas, de à peu près 13 mètres carrés. Et c'est là qu'elle vit avec sa famille. Tout autour, les maisons sont alignées, toutes les mêmes portes bleues. Et derrière, des petites pièces similaires à celles d'Evaline. Mon poste de travail est généraliste. J'emballe les fleurs et je m'occupe de les faire pousser. Est-ce que c'est un travail difficile ? Une des choses les plus difficiles, c'est qu'on passe énormément de temps à marcher tout en étant penché. J'ai eu des douleurs dans le dos et dans les jambes. Ça, c'est vraiment dur. Combien d'heures approximativement est-ce que vous travaillez par jour et par semaine ?
7,6
heures par jour. Combien est-ce que vous gagnez par mois aujourd'hui ? Mon salaire de base est de 9100 shillings kenyans, à peu près 80 euros. Si on fait des heures supplémentaires, ça peut monter jusqu'à 13 000 shillings, soit 114 euros. Est-ce que vous pensez qu'en termes de conditions de travail, c'est mieux de travailler dans une petite ferme comme la vôtre ou dans les grosses fermes, par exemple, comme Osserian ?
Je pense qu'il vaut mieux travailler dans une grande plantation comme Osserian, parce que la mienne, c'est une petite plantation et on n'a pas d'école intégrée, par exemple. Alors je dois parfois choisir si j'envoie mes enfants à l'école ou non, même pour les services de santé. Il y a bien une petite infirmerie, mais si on a quelque chose de grave, on doit dépenser tout notre argent pour aller à l'hôpital.
Est-ce que votre salaire est suffisant pour faire vivre tout le monde ?
Oh ma chère, ça c'est un vrai combat. J'ai une grande famille de 6 enfants et le salaire ce n'est jamais assez. Alors on se débrouille. Parfois on emprunte de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille et on rembourse petit à petit.
Cela fait plusieurs années donc que vous travaillez dans le secteur et dans la même entreprise. Comment est-ce que vos conditions de travail ont évolué ces dernières années ? Qu'est-ce qui a changé au jour le jour dans votre travail ?
Avant, nous avions beaucoup de problèmes parce que parfois ils épandaient des produits chimiques dangereux de classe 1. Et à cette époque, il y avait aussi beaucoup de harcèlement à l'encontre des salariés. Mais depuis qu'il y a eu des accords négociés, ils ne peuvent plus utiliser ce genre de produits chimiques et il n'y a plus de harcèlement.
Que ce soit vous ou des gens autour de vous, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont tombés malades ou qui ont eu des conséquences suite à l'utilisation de ces produits chimiques.
Oui, j'ai vu plusieurs cas. Bien sûr, ils ne travaillent plus avec nous parce qu'ils ont dû abandonner leur travail. Mais par exemple, il y a eu des gens qui ont eu les yeux abîmés par les produits chimiques. Certains avaient du mal à respirer parce qu'ils avaient inhalé des produits et ils ont dû partir.
On a entendu parler du fait que plusieurs fermes horticoles ont fermé récemment, que ce soit pour de la mauvaise gestion ou pour des délocalisations. Est-ce que ici, dans ce quartier, il y a beaucoup de gens qui ont été renvoyés ? Est-ce que c'est devenu un problème ces dernières années ?
À cause de ces fermetures récentes de plantations de fleurs, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail. Par conséquent, ils ne peuvent plus soutenir leur famille. C'est un gros problème dans cette région. Alors je ne peux pas dire que je me sente sécurisée. On n'est jamais vraiment sécurisée.
À Naivasha, on rencontre Samuel Otieno dans son bureau. Il est responsable du syndicat Kenya Plantation and Agricultural Workers Union, l'interlocuteur principal des fermes dans la zone.
Once we have a recognition agreement, the management.
Quand nous avons pu négocier un accord, le management doit suivre les conditions de cet accord. Mais il arrive que le management viole les conditions de ces accords. Par exemple, les salariés font des heures supplémentaires que les employeurs ne veulent pas payer ou payer moins. Ou parfois, les employés restent précaires pendant trop longtemps au lieu d'être embauchés. Et ils ne bénéficient pas des avantages qu'ils pourraient avoir s'ils l'étaient.
Le secteur a été très fortement critiqué, en particulier il y a 5 ou 10 ans, au niveau des conditions de travail. Comment est-ce que ça a évolué ces dernières années ?
Il y a eu beaucoup de grèves dans l'industrie des fleurs, plus qu'ailleurs. C'est pour ça que ça s'est quand même amélioré. Mais là où les syndicats ne sont pas tolérés, il reste des employeurs très fermés. Et si des employés tentent de se syndiquer, ils sont saqués.
Quel pourcentage est-ce que ça représente des ouvriers dans la région, ceux qui ne sont pas syndiqués ?
Là où il y a des syndicats, on a 70% d'employés syndiqués, mais il en reste donc 30%. Et là, c'est encore très difficile d'y introduire des syndicats, parce qu'ils savent que lorsqu'il y a un syndicat, les conditions de travail changent et le salaire peut même grimper.
Donc par exemple, sur les 5 dernières années, est-ce que vous avez des chiffres sur l'augmentation du salaire et quel est le salaire qu'un employé moyen touche aujourd'hui?
Il y a encore 5 ans, c'était très bas, à peu près 4500 shillings kenyans par mois, 39 euros, salaire moyen 115 euros par mois. Là où il y a des syndicats, ça a augmenté et le salaire est supérieur à 6000 shillings kenyans, 52 euros, mais on veut le faire augmenter plus.
De nombreuses fermes ont également maintenant des labels Fair Trade, commerce équitable. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain pour les employés ?
Dans certaines fermes, durant les audits pour ces labels, des employeurs ont menacé des employés. Si tu dis ça, tu es viré. Donc si vous dites quelque chose qui ne va pas dans leur sens, une fois que les auditeurs partent, vous êtes viré.
En termes d'utilisation de pesticides et de produits chimiques et des éventuelles conséquences sur la santé des ouvriers, quelle est votre position et quelle est la situation aujourd'hui ?
Avant, cette question des pesticides et des produits chimiques revenait très fréquemment. Mais quelques fermes ont fait des efforts là-dessus. Parce qu'avant, ils pouvaient épandre des pesticides dans une serre alors que les employés travaillaient dedans. Alors nous, les syndicats, nous disons aux employés: ne laissez pas quelqu'un épandre quand vous travaillez. Et ils nous appellent et nous disent: on a vu un problème ici, est-ce que vous pouvez vous en occuper ? Et on le fait.
Donc ça arrive encore, même si c'est moindre ?
Oui, ça arrive, mais beaucoup moins. Sans doute plus dans les plantations qui n'ont pas autorisé les syndicats. Donc on voit bien qu'il n'y a pas trop de liberté dans les plantations. Il n'y en a que quelques-unes qui sont ouvertes. Mais dans beaucoup d'autres, c'est difficile. Ils cachent certaines choses.
Nous venons d'arriver sur les rives du lac Naivasha. On peut voir une pompe qui sert à approvisionner les nombreuses fermes horticoles autour. On voit d'ailleurs des serres qui arrivent presque jusque sur le rivage du lac. Dans les eaux, 7 ou 8 hippopotames qu'on voit apparaître par alternance. Bonjour Enoch Kiminta.
Hello.
Vous êtes le président de l'association pour la gestion des ressources en eau du lac Naivasha. Donc on est dans une zone où il y a énormément de fermes horticoles. Quelles sont les conséquences de ces activités sur le lac?
Autour du lac Naivasha, il y a 67 plantations de fleurs. Bien sûr, la culture de fleurs a des avantages et des inconvénients. Commençons peut-être avec les avantages. D'abord, le pays gagne de l'argent avec le commerce international. Deuxièmement, le gouvernement y trouve aussi des revenus avec les licences. Troisièmement, socialement, le secteur des fleurs emploie 40 000 Kenyans sur le lac Naivasha. Donc les Kenyans en bénéficient directement et indirectement. Mais côté inconvénient, en tant que résident de Naivasha et spécialiste de l'environnement, nous voyons bien qu'il y a une énorme pression sur le lac de la part de l'industrie des fleurs, à cause de la quantité d'eau qu'elle absorbe pour irriguer les fleurs. Et il y a aussi de la pollution à certains endroits. On trouve des eaux grises et de la pollution solide qui vont dans le lac. Et il y a un impact sur la qualité de l'eau et sur les plantes aquatiques.
En termes de pompage de l'eau, est-ce que vous avez des exemples, des chiffres?
Oui, tout à fait. L'industrie des fleurs pompe à peu près 367 000 mètres cubes par jour. Ce qui fait quand même beaucoup. Mais avant de pouvoir pomper l'eau du lac, il vous faut un permis de l'autorité des ressources en eau, un organisme gouvernemental qui gère les ressources en eau du Kenya. Donc avant qu'une plantation ne récupère de l'eau du lac, elle doit avoir un permis de cette autorité. Et avant que cette autorité n'accorde un permis, elle doit d'abord demander conseil à notre association.
Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que toutes les fermes horticoles autour de Naivasha respectent les lois en termes de pompage de l'eau?
Elles sont toutes soumises aux lois sur les usages de l'eau. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui restent polluantes pour l'eau du lac, mais pas toutes.
C'est quel type de pollution?
The type of pollution I'm talking about is solid waste finding its way.
Je parle de déchets solides qui sont jetés dans le lac et de produits chimiques.
Pesticides, maybe for the fertilizers.
Des pesticides, des fertilisants, ce qui est vraiment une grande menace pour la survie du lac.
But again, if you look at
Mais encore une fois, si vous regardez les sources du lac, le plus gros de la pollution vient du bassin supérieur, là où se trouvent les petits exploitants, les petites plantations.
Donc finalement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part du secteur des fermes horticoles sous la pression.
Oui, il y a eu beaucoup de pression. Et cette pression nous a beaucoup aidés, parce qu'elle s'est exercée au plan local comme sur le plan international, dans les médias et même au niveau des consommateurs qui achètent ces fleurs dans les supermarchés, en Europe par exemple. Cette pression a changé la façon dont le secteur horticole travaille à Naivasha, sur la façon dont nous conservons cet écosystème où les fermes horticoles sont implantées, et aussi en termes de coopération entre les communautés qui vivent autour du lac.
Merci. Thank you.
Interception.
Par là, on voit des sœurs. Un peu ouverte.
Sur France Inter.
Retour en France à la recherche de la production française. La dernière étude de France Agrimaire sur la question date de 2009. À l'époque, moins d'une rose sur quatre achetée en France y poussait, surtout dans le Var et dans le Finistère.
Ça doit être là à droite.
Depuis, la production a encore décliné. Alors face à l'efficacité du commerce mondial, certains producteurs tentent de trouver d'autres voies.
Bonjour,
ça va?
Ça va,
ouais, ça va bien.
François Bataillard, président de l'association Fleurs de Cocagne et de Sola, une association d'insertion qui produit 200 000 roses bio par an au milieu des champs et des lotissements de l'Essonne.
Asseyez-vous, vous faites un café.
Merci.
Carole, tu peux me lancer un café, s'il te plaît? Merci.
Jamais on n'aurait imaginé le colosse qui anime tout ça et qui s'est mis en place au fil des années. C'est une horloge. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs là-dedans. Hein. Mais à quel prix? Ce que nous savons, c'est que dès lors que l'on inocule dans un végétal des molécules de synthèse, le végétal fait comme tous les organismes, les molécules qu'il ne reconnaît pas, il ne les transforme pas. Donc là, il y a deux solutions. Soit il la consomme, soit il la stocke. Tout ce qui n'est pas consommé, eh bien, reste là, en l'état, et transporté par le végétal. Le problème de cette situation, c'est que les fleurs coupées ont une vocation d'être trempées dans l'eau. Et donc, on va faire une infusion de ce que l'on trouve dans ces fleurs. Et on va la récupérer en partie, difficile de savoir quelle est la valeur de cette partie, mais en tout cas en partie, dans l'eau qui leur sert quand elles sont dans le vase. Et ensuite, cette eau, elle est jetée à l'évier. Et donc, elle est forcément réintroduite dans un cycle immuable qui est celui de la nature. Donc, on a une action polluante quand on achète des fleurs industrielles.
Le problème, c'est que cette pollution, effectivement, elle n'est pas du tout mesurée. On ne sait pas du tout ce qu'elle est.
En revanche, il y a eu ces 60 millions de consommateurs qui a fait, en 2017, l'analyse, non pas de l'eau, ce qui est fort dommage, mais des bouquets achetés dans le commerce. Et le résultat est inquiétant, parce qu'il y a principalement des pesticides et des insecticides, plus des molécules qui sont destinées à favoriser la croissance ou la conservation des fleurs. Parce qu'en plus, ces produits sont utilisés dans des pays où la législation est soit inexistante, soit extrêmement permissive. Là, on parle de la production au Kenya, de la production dans les pays de la couronne équatoriale, en fait. Alors, ils utilisent ce qu'ils peuvent utiliser en sachant que le gros de la production est assumé par des industriels. On va dire que chez l'industriel, ça va encore. Déjà, il optimise. Il n'en mettra jamais trop. Mais la problématique est étendue à la périphérie de la zone industrielle. Autour de la zone de production, on favorise la naissance de sous-traitants indépendants. Et ces petits producteurs périphériques, eux, n'ont aucun contrôle. On leur demande simplement de produire ce qu'on leur a commandé. Et donc, ils utilisent des produits chimiques. Alors, je prends l'exemple du Kenya, parce que c'est le seul que je connaisse, qui sont des copies chinoises de produits faits il y a 20 ans ou 25 ans par les majeures compagnies de l'industrie chimique. Et elles sont vendues sous le manteau et utilisées par des gens qui n'ont alors pour le coup aucune notion de ce qu'ils font quand ils les utilisent. Donc ils chargent, entre guillemets, à mort leur production de produits toxiques. Ensuite, ils la vendent à l'industrie qui s'est engagée à le racheter, qui ne fait aucun contrôle, qui mélange tout avec sa propre production. Et tout ça, ça finit dans nos vases. Et enfin, le contrôle sanitaire des fleurs coupées n'existe pas, parce que c'est pas de l'alimentaire. Personne ne s'en occupe.
Ça veut dire que la traçabilité des fleurs, elle est inexistante.
Il n'y en a aucune.
On va peut-être visiter la serre.
On va visiter la serre. Alors, c'est tout neuf ici, vous voyez. Donc ça demande un petit peu de rodage. Voilà, donc ce sont des serres à structure métallique, et dont la partie transparente est faite de verre, donc on va dire à l'ancienne.
Première chose qui est frappante quand on rentre dans votre serre, alors que donc il y a deux jours on était en Hollande où il y avait des centaines de milliers de roses partout, ici il n'y a pas une fleur.
Ah ben non, parce que ici on est en hiver, et donc en hiver les rosiers ne font pas des fleurs, ils s'endorment, la sève redescend, elle est dans les racines. Donc oui, il n'y a pas une fleur, non, c'est normal.
Alors la deuxième chose qu'on remarque, c'est la température par rapport aux serres hollandaises. Ici, on n'est pas en t-shirt.
Non, c'est clair. En fait, en hiver, on laisse le froid faire son travail. Si on maintient une chaleur, eh bien la sève ne redescend pas et on se retrouve avec des végétaux qui vont produire à l'année, qui vont bourgeonner en permanence. Donc ils vont être dans une espèce de surcharge. Hein.
Donc les roses à la Saint-Valentin, c'est pas très naturel.
Ce qui n'est pas naturel, c'est de vouloir une rose à la Saint-Valentin alors qu'on habite sur le 45e parallèle. Ça, c'est pas naturel. Et si le consommateur, qui reste le patron au bout du compte, informe son fleuriste du fait qu'il préférerait avoir des fleurs locales et se passer de roses à la Saint-Valentin, par exemple, et les fleuristes y suivront. Pourquoi ne fêterions-nous pas la Saint-Valentine, qui, elle, se trouve fin juillet? Et à ce moment-là, on pourrait offrir des roses à sa bien-aimée, tout en respectant le cycle naturel qui nous porte.
Tout est calme dans le ciel et sur l'onde. La nature chante et nous sourit. Car les fleurs sont la beauté du monde. Par un matin de mai fleuri.
Allons voir si la rose, c'était un reportage de Grégoire Le Callot avec Laure Broulard au Kenya. Prise de son Benjamin Thiot, mixage Vincent Godard, réalisation Violaine Ballet avec l'assistance précieuse de Mao de Butler. À la semaine prochaine.